Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je voudrais commencer aujourd'hui par une petite devinette. Je vais vous dire quelques phrases qu'on entend souvent et vous devez trouver de qui je parle. Ils se plaignent tout le temps. Quand ils travaillent, ils ne font pas grand-chose, mais la plupart du temps, ils sont en vacances. Il y en a trop et ils sont tous de gauche. Ils sont presque toujours abonnés à Télérama et ils écoutent France Culture. Ils se mettent en grève pour un oui ou pour un non, quand ils ne sont pas malades ou font semblant de l'être pour rester tranquillement chez eux. Ils font partie des professions les plus corporatistes. Je passe sur leur sadisme, scientifiquement prouvé, et sur le fait qu'ils sont injustes et qu'ils font souvent des fautes d'orthographe. Mais ça, ce sont les jeunes qui le disent le plus. Évidemment, vous avez tout de suite trouvé. C'est une petite liste des clichés les plus tenaces sur les enseignants français. Je suis sûre que vous en avez au moins prononcé un une fois dans votre vie. D'ailleurs, c'est devenu presque un cliché d'en parler. Mais quelle n'a pas été ma surprise, cependant, quand récemment j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle idée reçue, ou une nouvelle information, selon les points de vue, qui circulait sur les enseignants. Franchement, elle m'avait échappé jusque-là. Cette émission lui est consacrée, elle est intitulée « Les profs sont-ils trop payés ?» C'est le 4e épisode de la saison 3 de notre série « Place de la République » sur les services publics en France, la liberté, l'égalité et la fraternité. Rien que ça, une enquête de Rémi Debovski-Douatte.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Voilà, on a une pensée pour les professeurs qui, voilà, c'est la rentrée des classes, c'est lourd, et vous nous dites...
Ça fait des années que les profs réclament des hausses de salaire, on les entend dans les manifs, on les voit un peu partout réclamer. L'argument, en fait, c'est de dire qu'ils sont moins payés que leurs camarades de l'OCDE. Eh bien, en fait, selon les calculs des experts de l'OCDE, le salaire mensuel est de 3 850 euros, contre une moyenne de 3 457 euros. En fait, ils gagnent 393, près de 400 euros de plus par mois. C'est quand même énorme. Regardez, regardez maintenant pour un
problème. J'ai vu cette chronique le 12 septembre dernier sur LCI. Celui qui parle, c'est François-Xavier Pietri, le chef du service économie de TF1. Pendant plusieurs jours, ça a continué comme ça. J'entends partout que les profs de français sont bien payés. Sur France Inter, dans la chronique de Dominique Seux,
depuis plusieurs années, l'idée s'est imposée que les salaires des enseignants français ne sont pas seulement bas, mais qu'ils sont aussi en dessous de la moyenne des pays développés, de l'ordre de 7% au total. Et bien hier, l'OCDE, dont l'étude annuelle fait référence, a dit qu'en fait, non.
Dans le journal Les Échos, dans le journal du dimanche, et même au journal de 20h de France 2. Au même moment, début septembre, les syndicats d'enseignants se mobilisent contre la réforme du lycée, les classes trop pleines et les salaires trop bas. Alors je me suis dit, tiens, ces chiffres de l'OCDE tombent à pic. 3 850 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, ça ne colle pas vraiment avec ce que me racontent mes amis profs. J'en ai trois, et je suis sûr qu'aucun d'entre eux ne gagne cette somme. Mais peut-être que je ne connais que des profs particulièrement pauvres, ou peu diplômés. En tout cas, c'est ça qui me décide à approfondir la question. Et je me suis lancé dans une petite enquête. J'ai commencé par Amélie, une de mes trois amies profs. Elle enseigne les sciences économiques et sociales dans un lycée normand.
Je suis prof agrégée depuis 15 ans et 20 ans d'ancienneté dans le corps. Je fais partie des profs les mieux rémunérés. Je gagne 2400 euros net par mois. Si j'ajoute les primes, donc cette année je vais avoir 1h30 supplémentaire, et la prime d'ISO, je vais peut-être arriver jusqu'à 2007, entre octobre et juin. Et en juillet, août, septembre, je retourne à mon salaire de base, 2400. Et si je me compare à l'ensemble des salariés français, oui, je fais partie des salaires confortables. Je ne vais pas me plaindre, je ne suis pas du tout dans la misère. Mais je vis en province. Et je sais que pour mes collègues enseignants qui vivent à Paris, ou dans les grandes villes où les loyers sont beaucoup plus élevés, 2400 euros, c'est pas énorme. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce boulot, ça fait 20 ans que je me sens maltraitée, aussi bien par l'opinion publique que par ma hiérarchie. Ma hiérarchie exige de moi, par exemple, de faire des programmes qui, de fait, concrètement, ne sont pas faisables. Exige de moi d'évaluer mes élèves de telle ou telle manière, ce qui, je le constate, peut mettre mes élèves en situation de stress. M'oblige à les maltraiter, en fait. À faire des cours, à les gaver, il faut aller très vite, il faut finir les programmes, il faut les évaluer, il faut les mettre en concurrence, il faut... Le ministère ne se rend pas compte que ce qu'il nous demande de faire revient à maltraiter les élèves. Et donc nous, on jongle en permanence entre les injonctions de notre hiérarchie et la réalité de nos élèves pour essayer de leur faire du bien et non pas de leur faire du mal. Et c'est souvent impossible.
Vous avez déjà pensé à quitter vos élèves, l'éducation nationale ?
Oui, mais jamais pour des questions de salaire. Donc oui, quitter l'éducation nationale pour trouver d'autres endroits où pouvoir faire ce métier mieux. C'est triste, hein. Mais je veux, voilà, ce qui retient, c'est de se dire, je veux pas être le rat qui quitte le navire et laisser mes collègues et mes élèves et dans cette difficulté. Je veux être là pour participer avec mes collègues à essayer de faire au mieux, parce que c'est encore possible.
Amélie habite en Seine-Maritime, dans une petite ferme au beau milieu des champs. Elle est très intéressée par cette idée d'enquête et me conseille de poster un appel à témoignage sur les réseaux sociaux. Qui veut, parmi les profs, me parler de ses revenus, de logement, de niveau de vie? En quelques heures, je reçois des dizaines de réponses. L'un habite dans sa voiture 4 nuits par semaine, il a été muté à 100 km de chez lui, il ne peut pas se permettre de lâcher son logement pour une année scolaire. Avec ses 1 934 € par mois, il ne peut pas assumer non plus le coût de l'essence et 2 heures de route quotidienne. Une autre a dû, à 32 ans, habiter de nouveau chez ses parents, 13 ans après être partie de chez eux. Jeune prof, elle gagne 1 600 € par mois, pas de quoi convaincre un propriétaire quand le plus petit loyer est à 800 €. D'autres ont falsifié leur fiche de paye. Ils se sont inventés des garants fonctionnaires. Où sont donc ces gens qui gagnent 3 850 € par mois? Je rencontre Anélia, l'une des personnes qui m'a contacté sur Facebook. Elle habite et enseigne en Seine-Saint-Denis, mais comme elle n'a pas les moyens de se loger, elle vit en colocation, comme quand elle était étudiante.
J'ai environ 2 000 € par mois. Je suis à l'échelon 6 et je suis prof depuis 9 ans.
Et aujourd'hui, avec ça, on ne peut pas se loger?
Je trouve que c'est difficile. Ou alors on peut se loger, mais il faut faire une croix sur certaines choses, sur les vacances ou partir en vacances chez des amis. Voilà. Il y a des choses que je ne fais pas, en fait. Je ne suis jamais partie au bout du monde. Ou alors je suis partie l'année dernière en étant animatrice de colo. Voilà, des choses comme ça, des grands voyages, certaines sorties. Je ne vais pas spécialement au restaurant, par exemple. Je n'ai pas de voiture, j'ai un vélo. Voilà, il y a des choses que je ne fais pas. Et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai voulu changer un peu ma vie. Et je travaillais dans le 77 à cette époque-là. Et j'ai demandé à travailler dans le 93 à Saint-Denis. Donc j'ai dû trouver un logement dans le 93 qui m'a coûté assez cher. Et puis la rentrée a commencé. C'était hyper dur. Je m'attendais pas du tout à cette dureté-là au travail, dans ce collège qui est quand même classé REP+. Et puis, courant décembre, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon logement. En fait, il faisait très très froid, il faisait jusqu'à 10 degrés dans certaines pièces. L'appartement était pas du tout isolé, et en fait, c'était au dernier étage, donc sous les combles. Il y avait en gros pas de laine de verre. Et puis, ce qui était pas du tout réconfortant, c'était de rentrer à la maison. Puisque rentrer, ça voulait dire avoir froid chez moi, malgré mon loyer à presque 900 €. Et un soir du mois de décembre, je n'ai pas pu rentrer chez moi, donc je ne pouvais pas ouvrir la porte. J'ai fait appel à un serrurier en sachant qu'il était assez tard. Je voulais absolument être opérationnelle pour le lendemain matin. Et là, je me suis fait arnaquer. Il a ouvert ma porte, mais il a aussi changé ma serrure et mis une serrure qui coûtait un peu plus de 1200 euros. Il se trouve que je venais juste d'être payée, puisqu'au mois de décembre, on est payé très tôt pour les courses de Noël. Et donc, j'ai pu faire face à la dépense, mais la dépense m'a mise dans une situation catastrophique. J'étais donc hyper fauchée, j'avais froid. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de peut-être acheter un appartement. Donc, je me suis rendue dans une banque spéciale pour les enseignants. Afin de faire une simulation de prêt, ça m'a été complètement refusé puisque j'avais pas d'économie. Et on m'a dit de revenir quand j'aurai 10 000 euros de côté. Alors que j'ai quand même la sécurité de l'emploi et que je suis fonctionnaire depuis 9 ans. Donc vu les conditions, vu que j'habitais depuis à peine 3 mois à Saint-Denis, que j'avais pas un rond, j'ai décidé de faire de la colocation. Donc je me mets à la recherche d'un appartement en colocation. Dans les annonces que je lisais, il y avait souvent des critères qui m'éliminaient d'emblée en fait, parce qu'à l'époque j'avais 36 ans, donc je ne suis pas dans les clous. Donc ça s'arrêtait à 30 ans. Apparemment il y a un âge pour la colocation. Et j'ai du mal à trouver. Et puis j'ai fait quelques visites et ça n'allait pas du tout en fait, c'était beaucoup trop petit. Il y avait des choses un peu absurdes, comme des gens qui demandaient à un colocataire qui soit le plus possible absent, ou des gens qui louaient leur salon, ou la chambre de leur enfant qui fait des études et qui revient le week-end, donc faut partir le week-end. Et puis, pour finir, je suis tombée sur un mec hyper sympa au téléphone. Il se trouve qu'il avait un très grand appartement à Saint-Denis, ça m'éloignait pas trop de mon travail. Et j'ai emménagé chez lui aux vacances de février. Et puis, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'il était aussi le propriétaire de l'appartement. C'était une location illégale puisque je payais en liquide, j'avais pas de bail. Au début, ça m'a posé problème, on va dire, mentalement, parce que j'avais une grosse sensation de provisoire, de précaire. Et ça me pesait, en fait. Et puis, ce mec était hyper maniaque et plein de manies. Toutes les portes devaient être toujours fermées. Une fois, j'avais oublié de fermer la porte des toilettes, donc il m'a envoyé une photo de la porte des toilettes ouverte. Et puis, il mettait des chocolats à mon chéri dans mes affaires. Donc ça a commencé avec mes chaussures un matin où il y avait des chocolats à l'intérieur. Et puis après, ça s'est propagé. Il y en avait sur mon oreiller. Enfin, et quand je faisais des remarques négatives, il avait une drôle de façon de réagir et c'était assez insécurisant. Et comme c'était le propriétaire, moi j'avais très peur qu'il fasse changer les serrures, enfin qu'il me mette dehors. Il était vraiment invivable, en fait, et moi, j'étais épuisée. Et donc, j'ai contacté ce mec qui cherchait une deuxième personne pour sa colocation. Et je me souviens qu'en me rendant dans cette maison, j'ai expliqué ma situation et j'avais hyper honte de l'expliquer parce que j'avais pas d'économie, alors que passé 30 ans, on est censé avoir des économies ou un plan épargne. Et puis, il se trouve que ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, ça fait maintenant un an et demi, et même un peu plus, que je vis dans cette maison.
Et là, aujourd'hui, vous avez combien comme économie?
J'ai dans les 1000 euros.
C'est un bon début.
Oui, on peut dire ça, mais c'est pas beaucoup. Enfin,
Anélia et tous ceux à qui je parle gagnent tous moins de 2500 euros. Parfois, moins de 2000 euros. Je ne comprends toujours pas comment on peut en arriver à une telle moyenne de 3850 euros. Ce jour-là, des centaines de profs se réunissent à Bobigny pour rendre hommage à Christine Renon, la directrice d'école de Pantin qui a mis fin à ses jours.
Bonjour, je peux vous interrompre une minute?
Enchanté.
Vous êtes prof?
Nous sommes enseignants dans un lycée technique à Dorion à Paris et nous sommes venus manifester notre solidarité par rapport à la collègue directrice d'école qui a mis fin à ses jours en raison d'un surmenage. Voilà.
C'est pas que les directeurs d'école, c'est les instits en primaire, élémentaire, maternelle, au collège, au lycée, mesquinerie au quotidien, ce qui doit nous est payé avec des mois de retard. On achète nos ordinateurs pour travailler en payant de la TVA à l'État. On paye nos stylos, on paye nos blouses, on lave nos blouses. Ah, c'est ce que je fais au quotidien depuis 30 ans. Moi, je connais pas de prof qui n'achète pas son ordinateur à ses frais. Ça n'existe pas. Et son imprimante et ses cartouches d'encre. Moi, ma femme est dans l'enseignement. Donc c'est deux ordinateurs à la maison, parce qu'on travaille à deux.
Donc on travaille chez nous, Mais pour travailler chez nous, on investit dans du matériel informatique un peu conséquent. On utilise des gros logiciels industriels, donc on investit dans ce genre de matériel. Voilà.
On ne peut pas travailler au lycée, il n'y a pas d'endroit prévu pour ça. Il y a une salle des profs qui est une salle de détente, point, quoi. Je veux dire, quand on n'est pas en cours, on est dans la salle des profs, et si on veut travailler, bon, on rentre chez soi, quoi.
Il y a des chiffres récents de l'OCDE qui sont sortis pour expliquer que les profs étaient bien payés par rapport aux autres membres de l'OCDE.
Écoutez, les chiffres bidonnés de LCI, je suis au dernier échelon du maximum du grade. Mon salaire n'atteint pas le salaire moyen annoncé par LCI, donc je me pose quand même des questions sur les chiffres annoncés, quoi. Non, non, ils ont bidonné les chiffres. En tout cas, ils n'ont pas voulu les lire comme il fallait, quoi.
Mais comment vous expliquez ça ?
Ah ben, clairement, par une volonté de déconsidérer les enseignants. En net, je touche 3730 et quelques par mois, avec l'indemnité de transport. Je suis au maxi. Il n'y a pas d'agrégé qui touche plus que moi, et comme il n'y a pas de grade au-dessus, voilà. Donc tous mes collègues ici touchent ou comme moi ou moins. Donc les 3008 de LCI, c'est forcément du bidonnage.
Alors moi, mon salaire personnel, alors je suis en fin de carrière également, je ne suis pas agrégé, je suis certifié, c'est 2600. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on voit des chiffres de 3800, comme salaire moyen, ça fait un peu bizarre. Tout ça est pas surprenant, quoi. Je veux dire, ça fait partie de la musique de fond, la même qu'on a entendue sur les gilets jaunes, quoi, qui étaient tous des homophobes, des racistes et des antisémites. On le sait bien, quoi.
Et souvent, les gens qui tiennent ce discours disent, voilà, les agrégés, c'est 15 heures, les autres, c'est 18 heures par semaine. Donc, en gros, ils bossent 15 heures ou 18 heures par semaine.
Voilà, c'est ça, ouais. Bah, c'est exactement la même chose que celui qui présente le journal télé, quoi. On peut imaginer qu'il travaille que 3 quarts d'heure par jour. Bon, on n'ira pas jusque là, quand même.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors, dans les chiffres de l'OCDE, en fait, on gagne pas tant bien sa vie que ça pour des personnes qui ont un bac plus 5 et qui sont enseignants. Donc, on tourne plutôt autour aller au mieux 2000 euros dans le secondaire. Et pas du tout ce que j'ai pu voir dans la presse, les 3800 euros par mois, ça je n'ai jamais vu sur ma fiche de paye. Moi je gagne environ, maintenant je suis un peu ancienne, je gagne environ 2300 euros. J'ai un bac plus 5, j'ai fait un master recherche, je suis historienne de formation, après j'ai passé le concours exigeant du CAPES, puis de la grecque, je suis agrégée maintenant.
Et ça vous va ?
En fait, j'ai pris l'habitude, mais est-ce que ça me va ? Non, parce que par exemple, moi, j'ai des amis, j'ai un ami qui est prof en Allemagne, et quand il vient à Noël et qu'on en parle, on est toujours super étonnés du coup, parce que je crois qu'il gagne environ 3500 euros par mois, quelque chose comme ça, et il a moins d'ancienneté que moi en plus dans le métier. Voilà. Alors qu'on a fait le même nombre d'études, 1500 euros de plus que nous.
Alors on dit aussi que vous travaillez pas beaucoup.
Ah non, par exemple là je suis en lycée et c'est la réforme et je suis déjà épuisée de ma rentrée parce que avec tous les nouveaux programmes, toutes les nouvelles épreuves, je travaille tout le temps, le soir, le week-end, enfin les vacances, enfin, c'est non c'est pas vrai, on travaille beaucoup. Entre la correction de copie, la préparation des cours, le cours en classe. Et puis tout ce qui se passe à côté, c'est-à-dire rencontrer les parents, aller voir le CPE. On imagine juste que le prof, il fait juste son cours. Et puis après, il part. Mais non, c'est pas ça la vie de prof, en fait. Il y a plein de choses avant et il y a plein de choses après la classe. Donc j'ai 5 classes. Donc je sais pas, je commence presque tous les jours à 8h. Et je finis plutôt vers 16h. Après, quand je rentre chez moi, je prépare des cours, je prépare mes séquences de la semaine.
Jusqu'à quelle heure ?
Ça dépend, 21h, 22h, 23h parfois. Il y a beaucoup de choses à revoir avec les nouveaux programmes, donc je me fatigue beaucoup.
Donc vous travaillez de 8h à 23h ?
Oui, ça m'arrive, ouais. Avec des pauses pour manger, mais oui, c'est ça. Le week-end aussi, je travaille beaucoup les week-ends, là. Mais j'essaie quand même de me laisser une journée dans la semaine où je fais autre chose, mais bon, c'est un peu difficile en ce moment-là. Puis quand on a fait 3-4 ans de programme et qu'on a un peu compris l'esprit, compris comment le faire avec les élèves, pouf, toc, allez, on recommence tout. Et en fait, c'est un peu ça notre vie.
Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents ?
Ah, ma mère est assistante maternelle et mon père, il travaillait comme ouvrier.
Et donc, en fait, pour eux, avoir une fille agrégée, c'était plutôt chouette.
Ouais, c'était plutôt chouette. Mes parents, ils sont d'une ancienne génération. C'était quelque chose de super respecté d'être prof. C'était un métier important. Sauf que le temps, il a changé maintenant. Être prof, c'est plus tellement chouette. Enfin, il y a 20 ans, c'était un truc de fou. Maintenant, être agrégé, ouais, c'est juste bien parmi les profs, mais c'est pas bien dans la société. On gagne pas non plus des 1000 et des 100 quand on est agrégé. Aujourd'hui, on est dénigré à la télé. Quand on fait grève, on dit que c'est parce qu'on travaille pas. Alors qu'en fait, il faut voir les conditions dans lesquelles on travaille. C'est-à-dire que moi, par exemple, en lycée, mes élèves, ils n'ont pas de manuel. Parce qu'on est passé en manuel numérique. Oui, parce que c'est le nouveau truc. Sauf qu'ils n'ont toujours pas reçu les ordinateurs. Donc, pour l'instant, ils n'ont toujours pas les manuels. Voilà. Donc, ça augmente ma charge de travail. Parce que si mes élèves, ils n'ont pas de manuel scolaire, bah, je ne peux pas m'appuyer sur le manuel pour les cartes en géographie. Moi, j'utilise beaucoup en géographie pour les couleurs. Et je suis obligée de tout produire moi-même. Voilà. Et en plus, faire des tonnes de photocopies. Voilà, ça, c'est nos réalités tous les jours, tout le temps. Bon, je veux dire, on gagnerait 3000 euros par mois, mais super, en fait, nous, on mérite 3000 euros par mois. Mais c'est pas le cas. Une fois, j'avais fait un débat avec des quatrièmes parce qu'ils pensaient que je gagnais 10 000 euros par mois. Alors, non, vraiment. Et moi, je les ai regardés, je fais, non, mais je gagne pas 10 000 euros par mois. D'ailleurs, j'en ai dit, en fait, en réalité, dans la société, il y a très peu de gens qui gagnent 10 000 euros par mois, il faut quand même se le dire. Il y a presque personne. Et du coup, ils étaient choqués. Je dis, bah, moi, je gagne, à l'époque, j'étais jeune prof, et je dis, mais je gagne moins de 2 000 euros par mois, je devais gagner 1 700 euros, ou 1 800 euros à l'époque. Et ils étaient comme ça, ils étaient choqués, mais ouais, bah, ma mère, elle gagne plus que vous, mais c'est presque le SMIC. Mais après, il n'y a pas eu de mépris, il y a eu plutôt de l'étonnement de gagner si peu. 1 800 euros, ça les avait choqués.
Pour connaître le salaire d'un enseignant allemand, je me replonge à nouveau dans ces chiffres de l'OCDE. Mais l'OCDE regroupe des pays aux situations nationales bien différentes. Je découvre que les profs français sont moins bien rémunérés que leurs collègues allemands, danois, belges, hollandais, islandais et norvégiens. Et que oui, ils gagnent mieux leur vie que les profs turcs, grecs, tchèques et slovaques.
Prof de philo au lycée Jean Renoir de Bondy. Je suis assez jeune dans la profession, je gagne 1800 euros par mois. Donc 5 ans pour avoir le master, donc ça c'est le minimum. Et j'ai fait 2 années de doctorat et une année de préparation concours, donc 8 ans au total. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont à peu près à ce niveau-là, mais 3000, ce que vous dites, c'est vraiment une fin de carrière. Donc ça ne peut pas être le salaire moyen, clairement. Personnellement, je ne me plains pas du tout de mon salaire. J'estime que les salaires, ce n'est pas notre combat. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est parler de la pédagogie, comment améliorer nos conditions d'enseignement. Par exemple, ce que je condamne vraiment, c'est le nombre d'élèves par classe. Ça, c'est vraiment au détriment des élèves. Enfin, les élèves sont de moins en moins bons parce qu'on ne leur donne pas les possibilités de progresser.
Et c'est quand même très peu comme salaire, ce que vous avez pour 8 ans d'études.
Oui, je suis d'accord avec vous. Si on considère que les salaires doivent être indexés au nombre d'années d'études, et par exemple, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait être rediscuté dans la société, que c'est pas parce qu'on a fait beaucoup d'années d'études qu'on mérite un meilleur salaire. Parce qu'il y a des gens qui ont un travail très difficile, qui n'ont pas fait d'études parce qu'ils n'ont pas pu et parce que justement ils viennent d'un milieu social où on ne peut pas faire beaucoup d'années d'études. Et je pense que ça devrait faire partie des gens qui devraient être mieux payés. Je pense à des agents d'entretien, etc. Les agents qui sont dans notre lycée, par exemple, sont des précaires. Moi, je ne suis pas pour hiérarchiser l'utilité sociale. Je pense que quelqu'un qui balaye les saletés dans la rue a une utilité sociale tout aussi importante ou enfin, comparable à celle d'un enseignant. Ce n'est pas la même chose, mais bref, je suis contre la hiérarchisation de l'utilité sociale.
De mon côté, je cherche quelle technique a été utilisée pour arriver à ce chiffre de 3850 euros. D'abord, j'apprends que c'est du brut, ce que le journaliste de LCI s'est abstenu de préciser. Ce que je comprends aussi, c'est que ces chiffres ne doivent pas être repris comme tels. Du côté de l'OCDE, ils sont moulinés, corrigés, augmentés ou rognés en fonction de critères d'une grande complexité. Ça veut dire que ce chiffre n'a rien à voir avec un montant figurant en bas d'une fiche de paye. C'est ce qu'on appelle un indicateur, qui est calculé en fonction d'un pouvoir d'achat, enfin, si je comprends bien. En tout cas, je demande à Amélie, mon amie prof d'éco agrégée et sans le sou, si c'est bien ça.
Quand on compare des niveaux de revenus d'un pays à l'autre, on est obligé de raisonner ce qu'on appelle en parité des pouvoirs d'achat, de comparer des niveaux de revenus en fonction de leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire de ce que les gens peuvent acheter effectivement avec.
En fonction du coût de la vie du pays.
Voilà, exactement. Et donc ça permet de rendre les revenus comparable si on associe la question du revenu avec celle de la satisfaction des besoins. Mais du coup, c'est pas des montants de revenus qu'on compare, c'est une capacité des gens à satisfaire leurs besoins, ce qui n'a rien à voir. La France est un pays riche, donc d'une manière générale, les salariés français satisfont beaucoup mieux leurs besoins que d'autres pays dont la richesse est moindre. Au sein de l'OCDE, on trouve la Pologne, le Portugal, le Chili. On est un pays plus riche. Donc la population, évidemment, a un pouvoir d'achat plus élevé.
Ce qu'aurait pu ajouter Amélie pour finir, c'est une information que j'ai trouvée dans ce même rapport de l'OCDE. Entre 2000 et 2018, les salaires des enseignants ont augmenté de manière significative dans la moitié des pays de l'OCDE. En France, ils ont baissé de 6%.
C'était « Les profs sont-ils trop payés ?» un reportage de Rémi Dibowski, Douatre, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Amélie, Léo, Émilie, Amel, Jean, Anélia, Manel et Armand. C'est Aurélie Marsay, l'attachée de production des Pieds sur Terre.